et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, c'est la messe du bout de l'an, c'est la messe des un an de la mort de Vincent Lambert, et il nous a été demandé de prier pour lui, comme c'est l'usage dans l'Église, sans cesse et toujours de prier pour les morts. Très simplement, puisque c'est là l'essentiel de ce que nous avons à faire, je veux en rappeler les deux motifs principaux. Pourquoi disons-nous, en fait ça je pense que ça marche pas du tout, ça. Pourquoi disons-nous une messe pour les morts? Eh bien tout simplement en raison des suffrages que nous offrons d'une part et en raison de la mémoire que nous en voulons avoir d'autre part. D'abord, le suffrage. Le suffrage, c'est d'en s'en remettre à Dieu, et c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'âme. Si nous voulons remettre la vie de ceux que nous aimons à Dieu, c'est tout simplement que nous ne voulons pas préjuger du jugement divin. Nous ne voulons pas préjuger de Dieu. Voilà pourquoi toute personne peut être remise au Père à travers la prière, à travers cette confiance, cet abandon que nous avons. Dieu seul juge, et nous ne pouvons pas oublier de penser en ce jour que Dieu jugera tout le monde, bien sûr lui qui est mort, ceux qui l'ont accompagné, ceux qui lui ont voulu du bien, et ceux qui ne lui ont pas voulu du bien, ceux qui auront omis ce bien prévu de toute éternité par Dieu pour tout homme. Dieu seul juge, ce préjugement n'est pas nôtre, nous l'abandonnons volontiers à Dieu, préférant à la fois la confiance et l'abandon que la responsabilité d'avoir à juger les âmes. C'est un lien intime de communion, alors que par la mort disparaît la communication humaine, la possibilité de toucher, de parler, d'échanger, quelque diminuée qu'elle soit, elle reste une consolation humaine très forte. Eh bien, nous voulons, au-delà de cette communication morte, vouloir nous en remettre dans une communion spirituelle intime. Voilà à quoi cela sert, tout d'abord, de prier pour les morts, c'est de les remettre à Dieu, d'intercéder pour eux, de supplier pour eux, et cette liturgie insiste éminemment, alors que nous avons entendu et chanté le Dies Irae, cette supplication profonde, lente, longue, car nous ne voulons pas déchoir de notre devoir de prier longuement pour les morts. C'est encore le moyen que nous avons de les aimer, c'est encore le moyen que nous avons de faire quelque chose pour eux. Voilà la première raison des suffrages de l'Église pour les morts. La seconde est encore plus profonde, c'est tout simplement qu'elle est nécessaire. C'est que sans ce suffrage, comment pourrions-nous vivre? C'est l'aliment que l'on donne à ceux qui sont morts. Cet aliment dont on a privé Vincent Lambert, pour qui la France, dans une grande partie, avait espéré que l'on puisse encore nourrir quelqu'un, même malade, même diminué, même handicapé. Vous le savez, ce combat acharné, juridique aussi, de savoir si c'est un médicament ou pas que de nourrir quelqu'un, si un aliment est un médicament ou pas. Vous connaissez la réponse apportée dans une parfaite méconnaissance de l'humanité, dans un parfait mépris de ce que toute l'humanité a toujours vécu et dont elle vivra toujours, si elle veut vivre encore, c'est que nourrir, c'est l'acte essentiel de la vie. Ce n'est pas une médecine, et si l'on en vient même à se nourrir, à se soigner par les plantes, on se soigne déjà surtout en vivant, on vit, on mange. Combien de fois ne l'ai-je constaté au chevet des mourants, la famille présente désirant encore s'assurer que celui qui est au plus mal à bien manger. C'est le premier des soucis de toute mère. C'est le premier des soucis de tous ceux qui aiment. Puis-je encore nourrir ? Puis-je encore penser à soutenir celui que j'aime dans la vie ? Eh bien, c'est ce que nous faisons par cette messe. L'aliment de l'Eucharistie, que vous pourrez recevoir si vous le voulez et si vous le pouvez, l'aliment de l'Eucharistie qui nourrit toute notre vie est le signe même que c'est ça la vie, c'est de se nourrir et se nourrir de Dieu. Par chance, nous pouvons encore, par-delà la mort, dans ce suffrage que nous faisons, dans cette offrande de messe que nous faisons pour les morts, nous pouvons lui apporter cet aliment essentiel à la vie éternelle qui le fera tenir. Alors ne nous y trompons pas, mes bien chers frères, il s'agit d'un combat fondamental et essentiel. Et il n'y a pas que les avocats qui doivent s'y mettre, ils s'y collent, ils sont là, je les salue, dans leur combat. Et s'ils sont là, c'est parce que, évidemment, leur combat dépasse le débat juridique. Il est, ou plutôt le débat juridique englobe peut-être, le combat essentiel qui est de prendre attention à l'humanité et y prendre attention dans sa réalité. Nous fêtons deux saints aujourd'hui, l'Église est riche de beaucoup de rites. Dans la forme ordinaire du rite, nous fêtons Saint-Benoît, j'y viendrai tout à l'heure, c'est ce que vous avez marqué sur vos petits mémoires. Mais nous fêtons aussi le pape Pie Ier, moins connu, je vous le concède, le 10e pape de l'histoire. Il est étonnant de penser que ce pape a eu à se battre contre deux hérésies. La première, les gnostiques qui commençaient de poindre au 2e siècle, en 150, qui commençaient de faire valoir une vision de l'homme complètement éthérée, intellectuo-centrée et décharnée, déconnectée de la réalité même de la vie humaine. Par ailleurs, il eut à se battre contre Marcion, qui, pour penser un centrage plus grand sur le Christ, avait pensé se passer de l'Ancien Testament qui révèle en premier la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Comme il est facile de s'en remettre par piété, soi-disant, par bonté humaine, soi-disant, par volonté de faire le bien, et vous savez que ce sont les arguments de l'euthanasie, soulager, être plus humain, le droit à mourir dans la dignité, que de mots renversés, galvaudés, qui en fait font fi de la grandeur de l'homme qui est un don de Dieu. Et oui, par prétexte d'humanisme, d'humanité, de bonté, de proximité, on en vient à oublier celui par qui on était censé être proche de Dieu par l'humanité. Et oui, en méprisant la grandeur de Dieu, on ne peut que mépriser la grandeur de l'homme. Car l'homme, pour sa valeur, dépasse infiniment l'homme. Et ce qui vaut en lui, c'est le don qu'il a reçu de la vie. Voilà ce premier point sur le suffrage nécessaire que nous voulons offrir sans cesse à Dieu pour les morts. Il y a une autre raison, si nous offrons une messe pour les morts, c'est pour faire mémoire. Pour faire mémoire de ceux qui sont partis. Et, me direz-vous, c'est peut-être plus humain. Peut-être que ça a un soubassement humain plus naturel, mais ça n'en est pas moins naturel, surnaturel. Faire mémoire, c'est pour sa famille d'abord, le lien naturel de la pensée, et bien sûr notre pensée à nous va vers ses parents, qui ce matin même ont entendu ou entendent en ce moment la messe au Barou, à l'abbaye du Barou dont ils sont proches. C'est évidemment ce qu'il y a de plus évident au monde. Quand on a aimé quelqu'un, on ne l'oublie pas. Et si on nous le rappelle souvent à chaque mort aujourd'hui, comme quelque chose auquel on se raccroche, comme l'unique chose auquel on se raccroche, la mémoire des vivants, ce n'est pas parce qu'on peut la dépasser qu'elle n'est pas essentielle. Évidemment, nous voulons nous souvenir des morts, tout ce qui est humain est nôtre, et il est naturel pour sa famille de se souvenir de leur fils. Mais il y a plus. Dans ce lien familial, il y a un lien surnaturel. Il y a un lien qui unit indéfiniment ceux de la terre et ceux du ciel. Et la mémoire que nous faisons de ceux qui sont morts est déjà comme la mémoire que nous avons de nous au ciel. Nous sommes liés pour toujours, c'est le grand mystère du péché originel, vu avec tant d'horreur, mais qui est aussi une extraordinaire bonne nouvelle, c'est que nous sommes tous unis dans notre nature humaine et pour l'éternité. Oui, par le Christ qui nous a libérés du péché, dans sa nature nous sommes liés par le pendant du péché originel, qui est la rédemption universelle, la capacité que Dieu a de récupérer sa création déchue. En nous unissant, en faisant mémoire des morts, si nous y pensons humainement, naturellement, nous nous unissons surnaturellement à leur sort. À chaque fois que nous prions pour les morts, nous nous accrochons un peu plus au ciel, comme une cordée qui nous mènerait vers les cieux. Oui, en célébrant la mémoire des morts, nous nous unissons à Dieu lui-même qui les fait vivre. Nous qui sommes de l'Église de la terre, de cette Église militante, et il ne faut pas renoncer à nous battre, ce n'est pas parce que le combat est difficile, ce n'est pas parce qu'il semble titanesque que nous allons renoncer. Le bras de Dieu ne s'est pas raccourci et nous voulons combattre le bon combat comme le dit saint Paul. Nous voulons jusqu'au bout combattre le bon combat. Ce combat essentiel pour l'homme, pour la vie divine qui est en lui. Alors ce combat ne vaut pas que pour sa famille, bien sûr, mais ce que j'appellerais sa famille de pensée, dont je pense que vous êtes tous, évidemment. Alors je dis tous, et immédiatement je dois dire, dont nous sommes peu, à l'image du nombre de personnes qui sont ici, il est vrai, mais ce n'est pas le nombre qui va faire, c'est la radicalité de notre don qui fait la fidélité que Dieu montre dans ceux qui sont choisis pour manifester sa gloire. Oui, le radicalisme chrétien, pour ne pas dire l'intégrisme chrétien, dont on affuble assez rapidement et assez volontiers ceux qui défendent la vie, eh bien nous le revendiquons, car ce radicalisme qui consiste à défendre la vie, qui consiste à sauver des vies, ce n'est pas d'être radical qui est mauvais, ce n'est pas d'être parfaitement intègre qui est mauvais, c'est d'être intègre d'une mauvaise idée, d'un mauvais combat qui est mauvais, c'est d'être radicalement mauvais qui est mauvais. Avez-vous jamais pensé que l'amour puisse être radicalement mauvais quand il est intègre et parfait et volontiers englobant de tout? Oui, la mesure de l'amour étant d'aimer sans mesure, nous voulons être radicalement pour la vie et pas à moitié. La vie jusqu'au bout, la vie telle qu'elle est, la vie comme elle est, la vie dans la réalité et non pas dans une image gnostique rêvée d'une humanité surélevée, suraugmentée, reconstruite, bref, d'une humanité dégénérée. Oui, la vie dans sa beauté, y compris dans la terrible affliction de la douleur, de la maladie ou de la peine, c'est celle que nous voulons. Voilà ce que nous sommes venus aussi porter dans notre mémoire, à la mémoire de Dieu, au souvenir que Dieu a de nous, nous voulons porter cela. Alors, remettons-nous à Saint-Benoît, que nous fêtons aujourd'hui, dans la forme ordinaire du rite, mais dans toutes les formes que ce soit, il est patron de l'Europe. Gageons que la mort de Vincent Lambert, un 11 juillet, n'était pas anodin, car si demain l'Europe veut vivre de ce patronage, l'Europe veut vivre tout court, elle ne devra vivre que de la vie et pas de la mort. Voilà notre souhait en célébrant cette messe, de prier pour lui et de prier pour nous. Ainsi soit-il.